Chapitre 9. L'arrivée à Madrid du célèbre chanteur Tenorini mit le comble à la gloire de Maria par suite de l'enthousiasme avec lequel ce grand artiste faisait son éloge et du vif désir qu'il montra de chanter, accompagné par une voix si digne de s'unir à la sienne. Tonino Tenorini, autrement appelé le grand Tonino, était sorti on ne savait d'où. Quelques-uns disaient qu'il était venu au monde, comme Castor et Pollux, en sortant de neuf, non de cygne, mais de rossignol. Sa splendide et bruyante carrière avait commencé à Naples, où il avait complètement fait oublier le Vésuve. Il était ensuite passé à Milan, et de là, successivement à Florence, à Saint-Pétersbourg et à Constantinople. Il arrivait en ce moment de New York, après avoir été dans la Havane, et se proposait de se rendre à Paris, dont les habitants, furieux de ne pas avoir encore donné leur avis définitif sur une réputation si colossale, avaient fait une émeute pour soulager leur bile. De là, il daignerait se rendre à Londres, dont les amateurs de musique éprouvaient un terrible spleen par pure jalousie, et dont la saison risquait de se suicider si la grande notabilité n'avait pas compassion des maux causés par son absence. Chose extraordinaire et qui plongea dans la stupéfaction tous les Polos et toutes les Héloïses. Cet artiste sublime n'arrivait pas sur les ailes du génie. Les dauphins mal élevés de l'océan ne l'avaient pas apporté sur leur dos philharmonique, comme l'avaient fait jadis pour Amphion, ceux de la Méditerranée, dans des temps plus heureux. Tenorino était arrivé par la diligence. Quelle horreur ! Et bien plus, il avait un sac de nuit. On mit en avant le projet de célébrer son arrivée par la sonnerie générale de toutes les cloches, par l'illumination des maisons et par l'érection d'un arc de triomphe composé de tous les instruments de l'orchestre du cirque. Mais l'alcade ne voulut pas y consentir et il s'en fallut de peu que ce cancre réactionnaire n'en fût récompensé par un charivari. Pendant que Maria partageait avec le grand chanteur les ovations enthousiastes d'un public qui se prosternait humblement à genoux devant eux, une scène d'un caractère bien différent se passait dans la pauvre chaumière qu'elle avait quittée un peu plus d'un an auparavant. Pedro Santalo gisait dans son lit. Depuis qu'il était séparé de sa fille, le pauvre homme n'avait pas relevé la tête. Il tenait les yeux fermés et ne les ouvrait que pour tourner ses regards vers la petite chambre qu'avait occupée Maria. Cette pièce n'était séparée de la sienne que par les trois couloirs qui conduisaient au grenier. Tout y était resté dans l'état où sa fille l'avait laissé. Sa guitare était attachée à la muraille par un nœud de ruban qui avait été rose et qui maintenant pendait sans forme comme une promesse oubliée et sans couleur comme un souvenir effacé. Il y avait sur le lit un foulard de soie des Indes et l'on apercevait aussi de petits souliers sous une chaise. La tante Maria était assise au chevet du malade. « Allons, allons, oncle Pedro, disait la bonne vieille, oubliez que vous êtes catalan et ne soyez pas si têtu. Laissez-vous gouverner une fois dans votre vie et venez-vous-en avec nous au couvent, car vous savez qu'il n'y manque pas de place. » Comme cela, je pourrai vous soigner mieux et vous ne resterez pas seul et abandonné dans votre coin. » Le pêcheur ne répondait pas. « Oncle Pedro, continua la tante Maria, Don Modesto a déjà écrit deux lettres et on les a mises à la poste car on dit que c'est le moyen qu'elles arrivent plus vite et plus sûrement. « Elle ne viendra pas, murmura le malade. Mais son mari viendra et pour le moment c'est l'essentiel. » répondit la tante Maria. Elle, elle ! S'écria le pauvre père. Une heure après cette conversation, la tante Maria retournait au couvent sans avoir obtenu du rude et obstiné catalan qu'il consentit à s'y laisser transporter. La bonne vieille chevauchait sur l'illustre hirondelle, pacifique doyenne de la race asine de la contrée. Nous n'avons pu vérifier, à cause de l'ancienneté de la date de son baptême, ce qui lui mérita ce nom d'hirondelle, car il est constant qu'elle ne fit jamais le moindre effort, non seulement pour voler, mais même pour courir, et jamais, en automne, on ne remarqua chez elle la moindre velléité d'émigrer dans les régions de l'Afrique. Momo, devenu un petit homme, sans avoir rien perdu de sa laideur native, marchait en excitant la bourrique. « Écoutez, grand-mère, est-ce que ces promenades quotidiennes d'agrément pour venir voir ce vieux loup de mer vont durer bien longtemps ?»« « Sans doute, répondit son aïeul, puisqu'il ne veut pas venir au couvent. Je crains qu'il ne meure s'il ne voit pas sa fille. »« Eh bien, ce n'est pas moi qui mourrai de cette maladie-là, » dit Momo en poussant un bruyant éclat de rire. « Songe bien, mon garçon, » poursuivit la tante Marie, « que je n'ai pas grande confiance dans le courrier, quelque sûr qu'on le dise. Dom Bonnès ne s'y fit guère non plus. » Aussi, pour que Don Frédéric et Marie Salade puissent savoir combien l'oncle Pedro est malade, il n'y a qu'un moyen sûr, c'est que tu ailles le leur dire. Car enfin, nous ne pouvons pas rester ici, les bras croisés, à voir mourir un père qui appelle sa fille, sans rien faire pour la lui amener. Moi, aller à Madrid, et cela pour chercher la mouette ? S'écria Momo hors de lui. Ah ça, grand-mère, êtes-vous dans votre bon sens ? Je suis si bien dans mon bon sens que si tu ne veux pas y aller, j'irai, moi. Je suis allé à Cadix, je ne me suis pas perdu et il ne m'est rien arrivé de fâcheux. Il en sera de même si je vais à Madrid. Rien n'est pénible comme d'entendre ce pauvre père appeler sa fille. Mais toi, Momo, tu as mauvais cœur. C'est avec bien du chagrin que je te le dis. Je ne sais d'où tu as pu en tirer un semblable, mais ce n'est certainement pas du côté de ton père ni de celui de ta mère. Après tout, il y a souvent un Judas dans une famille. Il ne viendrait pas une idée semblable au démon lui-même qui ne pense qu'à faire damner les chrétiens, murmurait Momo. Et ce qu'il y a de pis, c'est que si elle se met cette idée en tête, il faudra qu'elle la mène à bout. Je serais capable d'en avoir les pieds et les jambes abîmés pour un mois. En songeant à cela, Momo soulagea son chagrin en déchargeant un furieux coup de houssine sur les hanches de la pauvre hirondelle. « Barbare ! » s'écria sa grand-mère. « Pourquoi t'en prends-tu à ce pauvre animal ?»« Allons donc, » répondit Momo. « Elle est née pour recevoir des coups. »« D'où as-tu tiré une pareille hérésie ? Dis, d'où l'as-tu tiré, âme d'Hérode ? Personne ne sait combien j'éprouve de compassion pour les pauvres animaux qui souffrent sans se plaindre, privés de toute consolation et de toute récompense. Votre compassion, grand-mère, est comme le manteau du ciel, elle s'étend sur tout. Oui, mon ami, et je prie Dieu de ne pas permettre que je sois témoin d'une seule douleur sans y compatir et que je devienne jamais comme ces êtres sans cœur qui entendent un gémissement avec autant d'indifférence qu'ils entendent pleuvoir. Que vous parliez ainsi pour ce qui concerne notre prochain, soit. Mais pour les animaux, que diable ! Est-ce que par hasard ils ne souffrent pas ? Est-ce que ce ne sont pas des créatures du bon Dieu ? Nous autres, nous sommes chargés de la malédiction et du châtiment que mérita le péché du premier homme. Mais quels péchés ont donc commis l'Adam et l'Ève des ânes pour que ces pauvres animaux soient condamnés à une existence aussi pénible. Cela me fait mal à voir. Ils auront mangé la pelure de la pomme, dit Momo en poussant un nouvel éclat de rire. Ils rencontrèrent alors Manuel et Rose qui retournaient ensemble au couvent. Ma mère, comment va l'oncle Pedro ? Demanda le premier. Mal, mon cher fils, cela me fend le cœur de le voir si malade, si triste et si isolé. Je lui ai dit de venir au couvent, mais il serait plus facile de faire marcher le fort de Saint-Christophe que cet entêté. On n'en viendrait pas à bout avec un canon de 24. Il faut que le frère Gabriel aille là auprès de lui et que Momo aille à Madrid pour amener sa fille et Don Frédéric. « Eh bien, qu'il y aille, » dit Manuel, « cela lui fera voir du monde. »« Moi ?» s'écria Momo, « et comment pourrais-je y aller, grand Dieu ?» Avec un pied devant l'autre, répondit son père. As-tu peur de te perdre ou d'être mangé par le loup-garou ? C'est que je n'ai pas du tout envie d'y aller, répliqua Momo, outré de colère. Je t'en donnerai l'envie avec une bonne baguette de houx. Es-tu prêt, mauvais drôle ? Lui dit son père. Momo, tout en maudissant l'oncle Pedro et tous les siens, entreprit son voyage et se joignant au muletier de la Sierra d'Aracena, qui venait à Villamar pour le commerce du poisson, il arriva à Valverde. De là, en passant par Aracena, l'Olive et Barcarota, il atteignit la ville de Badurance, par laquelle passe l'ancienne route qui met Madrid en communication avec l'Andalousie. De là, sans s'arrêter, il poursuivit jusqu'à la capitale. Don Modesto avait copié en énorme caractère l'indication de la maison qu'habitait Stein, indication que celui-ci avait envoyée aussitôt après son arrivée. Avec ce billet, Momo continua sa marche en entonnant une nouvelle litanie d'imprécations contre la mouette. Un soir, la tante Maria, plus découragée que jamais, quittait la maison du pauvre pêcheur. « Dolorès, dit-elle à sa belle-fille, l'oncle Pedro va nous échapper. Ce matin, il enroulait les draps de son lit, ce qu'il veut dire qu'il fait ses paquets pour le grand voyage dont on ne revient pas. Palomo, qui était avec moi, s'est mise à hurler. Et ces gens-là qui n'arrivent pas. Je sens ma chemise toute glacée sur mon corps. Il me semble que Momo devrait être de retour. Il y a 10 jours qu'il est parti. » « Ma mère, répondit Dolorès, le chemin est long d'ici Madrid. Manuel dit qu'il ne peut être de retour avant 4 ou 5 jours. » Quel dut être l'étonnement des deux femmes quand elles virent tout à coup devant elles Momo lui-même, en personne, avec l'air à la fois effaré et de mauvaise humeur. « Momo ! » s'écrièrent-elles toutes deux ensemble. « Lui-même, en corps et en âme, répondit celui-ci. « Et Marie Salade ? » demanda la tante Marie. « Et donc Frédéric ? » demanda Dolorès. « Vous pouvez les attendre jusqu'au jugement dernier, répondit Momo. « Je suis heureux de m'être bien tiré de ce voyage, car je me suis trouvé dans une méchante affaire. »« Qu'y a-t-il donc eu ? Que t'est-il donc arrivé ?» demandèrent son aïeul et sa mère. « Je vais vous le dire pour que vous admiriez les jugements de Dieu et que vous le remerciez de me voir libre et bien portant grâce à mes bonnes jambes. » Les deux femmes tressaillirent en entendant ces paroles qui semblaient annoncer de graves événements. « Parle donc, dis-nous ce qui est arrivé » s'écrièrent-elles de nouveau toutes deux. « Tu vois que nous avons l'âme suspendue à un fil. » « Quand j'arrivai à Madrid, dit Momo, et que je me vis dans un pareil hôpital, je me sentis mal à mon aise. Avec le billet que m'avait remis le commandant et qui était un papier parlant, j'entrai dans un cabaret où je rencontrai un buveur un peu échauffé mais obligeant qui me conduisit à la maison indiquée par le billet. » Là, les domestiques me dirent que leurs maîtres étaient absents, puis ils allaient me fermer la porte au nez, mais ces imbéciles-là ne savaient pas à qui ils avaient affaire. « Halte là, leur dis-je, pensez à qui vous parlez, car je ne suis le domestique de personne et je ne viens rien demander. Cependant, je pourrais le faire, car c'est chez moi que fut recueilli Don Frédéric mourant et ne sachant où reposer sa tête pour rendre le dernier soupir. « Tu as osé dire cela, Momo ? » s'écria sa grand-mère. « Allons donc, est-ce qu'on dit des choses pareilles ? Quelle honte ! Qu'auront-ils pensé de nous ? Allez jeter un service à la figure des gens ? Qui a jamais vu une chose semblable ? Et pourquoi donc ne l'aurais-je pas fait ? Oh, j'en ai dit bien d'autres. Je leur ai conté que c'était ma grand-mère qui avait emmené leur maîtresse chez elle quand celle-ci s'était rendue malade à force de courir et de sauter sur les rochers comme une mouette qu'elle était. » Ces nigauds se regardaient les uns les autres en riant et en se moquant de moi, et ils me dirent que je me trompais et que leur maîtresse était fille d'un général des troupes de Don Carlos. Fille d'un général, entendez-vous cela ? Par les morts, peut-on mentir plus effrontément ? Dire que l'oncle Pedro est général ? L'oncle Pedro qui n'a même pas été au service du roi ? Allons, leur dis-je, dépêchons-nous, car le motif qui m'amène est pressant et tout ce que je désire est de perdre de vue le plus tôt possible vous, vos maîtres et Madrid. Nicolas, dit alors une fille qui avait l'air aussi frivole que sa maîtresse, conduit cet oison au théâtre, il pourra y voir madame. Remarquez bien que quand cette créature mal embouchée parlait de moi, elle disait « oison » et que lorsqu'elle parlait de cette vagabonde de mouette, elle disait « madame ». Qui pourrait croire de pareilles choses ? Habitude de Madrid, sans doute, que le ciel la confonde. Le domestique prit donc son chapeau et me conduisit à une maison très grande et très élevée comme une sorte d'église, mais qui seulement, au lieu de flambeaux, avait des lampes qui éclairaient comme autant de soleil. Autour, il y avait des espèces de sièges sur lesquels étaient assises, raides comme des fuseaux, plus de 10 000 femmes parées comme pour une fête et rangées comme des fioles dans une pharmacie. Au-dessous d'elles, il y avait tant d'hommes qu'on eût dit une fourmilière. Je ne sais vraiment d'où pouvaient sortir tant de créatures. « Eh bien, me disais-je sous mon gilet, faut-il qu'il y ait du pain à Madrid pour nourrir tout ce monde ? Mais ce qui doit vous étonner bien davantage que tout le reste, c'est que tous ces gens étaient venus là pour entendre chanter la mouette. » Momo fit une pause, tenant les mains ouvertes et tendues à la hauteur de son visage. La tante Marie baissa et releva successivement la tête en signe de satisfaction. « Dans tout cela, dit Dolorès, je ne vois pas le motif qui t'a fait revenir si vite et tout effaré. » « j'y arrive, répondit Momo, car je ne suis pas un faiseur d'histoire et je raconte les choses comme elles se sont passées. Voilà donc que soudain et sans l'ordre de personne, plus de 1000 instruments se mettent à résonner à la fois, des trompettes, des flûtes et des violons grands comme des confessionnaux dont on jouait par en bas. Sainte Vierge, quelle tintamarre ! J'eus un moment de frayeur qui ne dura pas, grâce à Dieu. Mais d'où venaient donc tant de musiciens ? Demanda Dolorès. Qu'est-ce que j'en sais ? On aura fait sans doute une levée d'aveugles dans toute l'Espagne. Mais cela n'est pas le plus fort. Voilà qu'une espèce de jardin qu'il y avait devant nous disparaît tout à coup. On aurait dit que le diable l'avait emporté. Que nous racontes-tu là, Momo ? Dit Dolorès. Rien que la pure vérité. Au lieu des massifs d'arbres, nous vîmes en face de nous une espèce d'estrade couverte de tapis comme dans un palais, et là nous vîmes se présenter une femme plus parée, plus couverte de velours, de broderies d'or et de bijoux que la Vierge du Rosaire. « C'est la reine Donia Isabelle, » me dis-je à part moi. « Eh bien non, ma foi, ce n'était pas la reine. Savez-vous qui c'était ? Ce n'était ni plus ni moins que la mouette, la maudite mouette, qui s'avançait avec les pieds et les jambes nues. Ce qui avait eu lieu pour le jardin lui était probablement arrivé aussi. Le diable l'avait emporté de même et avait mis une princesse à sa place. J'étais tout abasourdi. Au moment où l'on y pensait le moins, voici venir un monsieur très bien habillé. Il se mit à jeter feu et flamme. Était-il en colère ? Il avait des yeux ! « Caramba ! » me dis-je à moi-même, « je ne voudrais pas être dans la peau de la mouette. » Pendant ce temps-là, il se querellait en chantant. « Bah ! » me dis-je, « c'est probablement la manière de ces gens-là. » Malgré cela, je ne me rendais pas bien compte de ce qu'il faisait, mais ce qui finit par me paraître évident, c'est que c'était le général de Don Carlos, car elle l'appelait son père. Mais lui, il ne voulait pas la reconnaître pour sa fille, quoiqu'elle le lui demandât à genoux. « C'est bien fait » criai-je tout haut à cette effrontée menteuse. « Pourquoi donc te mêler là-dedans ? » lui dit sa grand-mère. « Allons donc, moi qui la connaissais, je pouvais bien l'attester. Ne savez-vous pas que celui qui ne dit mot consent ? Mais il paraît que là, on ne peut pas dire la vérité, car mon voisin, qui était un agent de police, me dit « Voulez-vous bien vous taire, mon ami ?»« Je n'en ai pourtant pas envie, » lui répondis-je. Car je dois dire à haute voix que cet homme n'est pas son père. Êtes-vous fou ou venez-vous de Las Bastucas ? Me dit l'homme de police. Ni l'un ni l'autre, lui répondis-je, mais je suis révolté de ce que j'entends. J'en sais plus long que vous, car je viens de Villamar, où est son père légitime, l'oncle Pedro Santalo. Vous, me dit le madrilène, vous êtes comme un grossier morceau de chêne-liège. Voulez-vous qu'on vous enlève l'écorce ? La moutarde me monta au nez et je levai la main pour lui donner une gifle quand Nicolas me prit par le bras et m'emmena pour aller boire un coup. « J'y suis à présent, lui dis-je. Ce général est celui que cette damnée mouette veut faire passer pour son père. J'avais entendu parler de bien des infamies, de meurtres, de vols, d'actes de piraterie. Mais quant à renier son père, je n'avais jamais rien entendu de pareil. » Nicolas se tordait de rire. « Il paraît que dans ce pays, une mauvaise action de ce genre n'a rien qui les étonne. » Quand nous rentrâmes, il est probable que le général avait ordonné à la mouette de se dépouiller de toutes ses parures, car elle reparut toute vêtue de blanc, comme si elle avait été couverte d'un linceul. Elle se mit à chanter et prit une très grande guitare qu'elle posa par terre et dont elle joua des deux mains. Que n'est pas capable d'inventer cette mouette ? « Maintenant, voici le plus intéressant, car soudain, on vit s'avancer un maure. »«
Un maure ? » ?»«
Oui, et quel maure ? Plus noir et avec l'air plus farouche que Mahomet lui-même, tenant à la main un poignard aussi long qu'un sabre. Je restai comme mort.
« Jésus Maria ! » s'écrièrent en même temps les deux femmes.
Je demandai à Nicolas quel était ce fier à bras
et il me répondit que c'était Tello, Othello. Pour en finir plus vite, le Moro dit à la mouette qu'il venait pour la tuer.
« Vierge du Carmel !» s'écria la tante Marie. « C'était peut-être le bourreau !»«
Je ne sais pas si c'était le bourreau ou un exécuteur payé exprès, » répondit Momo. « Mais ce que je sais, c'est qu'il l'a saisi par les cheveux et qu'il la frappa un coup de poignard. Je l'ai vu de mes yeux et je puis en porter témoignage. »
En disant ces mots, Momo appuyait ses doigts au-dessous de ses yeux avec une telle énergie d'expression qu'on aurait pu croire qu'ils allaient sortir de leurs orbites. Les deux pauvres femmes poussèrent un cri, la tante Marie a sangloté et se tordait les mains de douleur.
« Mais que faisaient donc tous les gens qui étaient là ?» demanda Dolorès en pleurant. « Est-ce qu'il ne s'est trouvé personne pour s'emparer de ce scélérat ?»«
C'est ce que j'ignore, » répondit Momo, « car en voyant cela, j'ai pris mes jambes à mon cou, de peur d'être appelé en témoignage, et je n'ai pas cessé de courir, avant d'avoir mis quelques lieues entre la ville de Madrid et le fils de mon père.
« Il est nécessaire, dit la tante Marie tout en sanglotant, de cacher ce malheur au pauvre oncle Pedro. Ah, quel malheur, quel malheur !»«
Et qui aurait le courage de le lui dire ?» répondit Dolorès.
« Pauvre Marie, elle a fait comme cet Espagnol qui étant bien voulut être mieux. Voilà les conséquences de son ambition. »
« Chacun est payé selon ses mérites, » dit Momo. « Cette créature dénaturée devait finir mal. Cela ne pouvait manquer. Si je n'étais pas fatigué, j'irais de suite le raconter à Raton Pérez. »